Qu'est-ce qui peut être arraché? On n'en sait rien. Bon, voyons. Est-ce que Roussel peut vous aider? Roussel écrit un livre célèbre, donc Roussel est un poète, fin 19e, début 20e, qui est évidemment, qui semble étrange, il faut aimer. Foucault aimait beaucoup. Le nouveau roman a beaucoup aimé Roussel. Il y a un article très important de Rome Grillet sur Roussel. Sans doute, est-ce qu'il y avait quelque chose à voir, et c'est pas la première fois que j'essaie de marquer une affinité de Foucault avec le nouveau roman. En tout cas, qu'est-ce qu'il y avait de si fascinant, qu'est-ce qu'il y a de bizarre, de si fascinant dans l'œuvre de Roussel? Heureusement, Roussel nous a laissé un livre qui a pour titre « Comment j'ai écrit certains de mes livres ». Comment j'ai écrit certains de mes livres, pas tous, hein, certains. Donc allons-y avec confiance. Comment il a écrit certains de ses livres, Roussel? Il nous dit de la manière suivante. Supposez, je vous raconte une étrange entreprise, une étrange entreprise poétique. Supposez le cri de guerre, je vais fendre les mots, je vais fendre les phrases. Je vais fendre les phrases. Ça nous intéresse puisque, vous vous rappelez que dans toutes nos analyses précédentes, on a vu que la découverte de l'énoncé selon Foucault impliquait précisément que l'on fende les mots, les phrases et les propositions. Si l'on n'arrivait pas à fendre les mots, les phrases et les propositions, jamais on ne découvrirait les énoncés. C'est le moment ou jamais de se demander, eh ben alors qu'est-ce que ça veut dire au juste, fendre les mots, les phrases et les propositions? Ça veut dire construire deux phrases dont la différence est infiniment petite. C'est ça, ouvrir la phrase, fendre la phrase. Construire deux phrases dont la différence est infiniment petite. Roussel en donne un exemple qui anime une de ses grandes œuvres. Voilà une phrase, ou du moins un fragment de phrase. Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard. Vous voyez, dans cette phrase, les lettres signifient des signes, du blanc, blanc signifie le petit cube qui est toujours présent sur le billard. Sur les bandes, bande signifie bordure du billard. Billard signifie billard. Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard. Considérez la phrase 2. Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard. Cette fois, nous pouvons supposer que lettre signifie missive, blanc signifie un homme blanc, les bandes signifient la troupe, pillard signifie pillard, et le fait que ça se rapporte à un blanc suppose que le pillard, lui, soit un noir. Les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard. J'ai mes deux phrases qui se distinguent par quoi ? Ce que Foucault appellera un petit accro. Qu'est-ce que c'est que l'accro ? Ou une petite différence. Le petit accro, c'est B sur P. B de billard sur P de pillard. Sinon, les mots sont les mêmes. Les lettres du blanc sur les bandes du vieux pi-billard. Voilà. Alors, B sur P, vous admirerez que c'est exactement ce que la linguistique, Roussel ne l'ayant pas attendu, appelle un rapport phonématique. C'est le petit accro. Tu as dit P ou tu as dit P ? Tu as dit B et si tu prononces les B comme des P, qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard ou du vieux pillard ? Pensez que ce procédé a animé beaucoup de grands auteurs. Vous le trouvez constamment chez Lewis Carroll. À tout égard, on peut dire que le procédé des langages paradoxaux est souvent de ce type. Je ne dis pas que ce soit le seul possible. Bien, j'ai donc mes deux phrases. J'ai ouvert la phrase. Voilà, c'est ça. Fendre la phrase, ouvrir la phrase. Pourquoi j'en dégage un énoncé ? Ben, l'énoncé, c'est exactement ceci. Si vous avez compris tout ce qu'on a fait sur l'énoncé, dans cette construction artificielle, l'énoncé, je pourrais dire c'est quoi ? C'est les lettres du blanc sur les bandes du vieux. Et là, j'écris. Allez, on va voir.
Tiens, tu l'as créé ?
Non.
On voit rien du tout, on voit.
Ah bon ? Oh, je vous supplie par vous-même.
Alors, on va le voir.
Merci. Je vais faire juste des besoins comme ça. Alors j'écris les lettres du blanc sur les bandes du vieux. Et là je mets. Voilà. J'ai extrait un énoncé des phrases. Vous me direz, il ne faut pas se foutre du monde. Bon, mettons que ce soit la version humoristique de quelque chose de sérieux, si vous y tenez. Mais on peut préférer la version humoristique. Si on me dit qu'est-ce que c'est qu'un énoncé, en quoi ça se distingue des phrases ? Je dirais, les phrases, c'est l'un ou l'autre. C'est les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard ou du vieux billard. C'est l'un ou l'autre. L'énoncé, c'est les lettres du blanc sur les bandes du vieux B sur P, IAR. Pourquoi c'est ça l'énoncé ? On l'a vu. C'est parce que sérieusement, là c'est des conditions complètement artificielles, mais dans les conditions naturelles du langage, on a vu que l'énoncé se définissait par la variation immanente. C'est-à-dire par le passage d'un système homogène à un autre système homogène. Le passage perpétuel d'un système à un autre. Donc, si je me donne des conditions artificielles où cela apparaît clairement, il faut vous rappeler tout ce qu'on a fait précédemment, où cela apparaissait déjà dans des conditions plus sérieuses, et en un sens peut-être moins frappantes. Mais là, on se contente de dégager ce qu'on a essayé de montrer sérieusement précédemment. Alors, bon, j'ai dégagé ça, l'énoncé. En fendant la phrase, ou en fendant les phrases, j'ai dégagé l'énoncé. Mais voilà que j'ai pas pu dégager l'énoncé des phrases sans faire surgir un certain nombre de scènes visible. La visibilité va apparaître où ? Dès que j'essaie qu'une des phrases rejoigne l'autre. Il me faudra à ce moment-là susciter des scènes visibles, tout à fait étonnantes, si invraisemblables soient-elles. Il me faudra susciter des visibilités paradoxales pour assurer la jonction des deux phrases. Exemple. Le vieux pillard, qui est le roi Talou dans le récit de Roussel, le vieux pillard devra bien être lié et avoir une espèce de travestie, une robe à traîne. Ça se voit. La robe à traîne de Talou. Pourquoi est-ce qu'il doit avoir une robe à traîne ou pourquoi est-ce qu'il doit surgir dans le récit une robe à traîne? Parce qu'une traîne, c'est une queue. Et que queue, c'est queue de billard. Et à l'infini, tout ça. Il faudra que chaque fois des proliférations fassent naître du visible qui ne cesse de rapporter la phrase 2 à la phrase 1. Bon, et comme ça, Roussel va construire tout son poème où l'écart entre les deux phrases, l'écart qui suscite l'énoncé, ne sera pas comblé sans susciter à son tour des visibilités. C'est-à-dire des spectacles insolites. La robe à traîne de Talou. Bon, je pourrais développer beaucoup. Ceux que ça intéresse liront, s'ils ne l'ont pas déjà fait, comment j'ai écrit certains de mes livres, ou bien mieux, liront le grand texte de Roussel qui concerne cela et qui s'appelle « Impression d'Afrique ». Je résume. En ouvrant les phrases, je dégage un énoncé, mais en même temps, je suscite, je fais proliférer toute une série d'images visuelles par laquelle la phrase 2 rejoint la phrase 1. Voilà typiquement un phénomène de capture. J'ai ouvert comme une mâchoire les phrases, elles se referment sur des visibilités. C'est exactement la capture. Voilà que l'énoncé capture du visible. La phrase 2 ne pourra rejoindre l'énoncé que par l'intermédiaire de ces scènes visuelles et violemment visualisées. Or, Foucault remarque que le titre, comment j'ai écrit certains de mes livres, exclut certains autres livres. Et en effet, il y a des livres de... Ah non, je donne encore un autre exemple parce que... Il est très typique. Il y a un poème de Roussel, très beau, et très amusant, qui s'appelle Chiquenaude. Chiquenaude. Cette fois-ci, la phrase fendue, c'est quoi? C'est les vers de la doublure, les vers de la doublure dans la pièce de Forban. Regardez, un Forban. Mais Forban sert ici de nom propre, c'est le personnage, c'est un personnage qui s'appelle Forban. Les vers de la doublure dans la pièce de Forban, Talon rouge. talon, un talon de chaussure, talon rouge. Hein, vous voyez ? Voilà. C'est un fragment de phrase. Je peux dire, j'ai entendu les vers de la doublure dans la pièce de Forban Talon Rouge. Ça veut dire quoi ? Les vers, eh ben, c'est l'unité poétique. La doublure, c'est que j'y étais un soir où c'était la doublure de l'acteur qui remplaçait l'acteur. Les vers de la doublure dans la pièce intitulée Forban Talon Rouge. C'est le nom supposé d'une pièce. Je construis ma phrase avec le petit accroc. Là, l'accroc va se justifier d'autant plus. Et je dis, les vers de la doublure dans la pièce, puisque là c'est pareil, dans la pièce du fort, au sens de puissant, du fort, pantalon rouge. Les vers de la doublure dans la pièce du fort, pantalon rouge. J'ai ouvert les phrases. J'ai formé un système à mâchoire, à double mâchoire. Cette fois, la seconde phrase, c'est les vers. C'est l'animal. L'animal qui mange nos tissus. La doublure. Eh ben, c'est la pièce rapportée sur un costume. Donc ça veut dire à la lettre, si vous voulez, une doublure miteuse. La doublure, bon. Dans la pièce, cette fois-ci, c'est plus la pièce de théâtre, c'est la pièce surajoutée en couture, du pantalon rouge. Voilà. Comment la phrase 2 va-t-elle rejoindre la phrase 1 ? Donc, j'ai un énoncé à nouveau. L'énoncé, c'est le porteur de la variation immanente. À cheval sur les deux systèmes. C'est B sur P. Comment 2 va rejoindre 1 ? Eh bien, supposez que dans la pièce Forban Talon Rouge, il y ait une fée qui mette sur le pantalon du diable ou du forban une pièce mitée. Pièce mitée qui a, donc sera appelée à se déchirer et par là à ruiner les entreprises du forban. Voilà. La phrase 2 rejoint la phrase 1, puisque les vers de la doublure dans la pièce du pantalon prend sa place dans les vers de la doublure dans la pièce de théâtre Forban Talon Rouge. Bien. Si on n'avait pas vu la version sérieuse de tout ça, ça n'aurait pas d'intérêt. Une fois qu'on a vu la version sérieuse de tout ça, on comprend que dès qu'il y a énoncé, l'énoncé ne fend pas les phrases sans susciter des visibilités par lesquelles une des phrases rejoint l'autre. Or, je disais, revenons à l'autre aspect, bon, mais il y a des œuvres sans procédé chez Roussel. Qu'est-ce que c'est que les œuvres sans procédé ? crois que c'est un très grand mérite de Foucault, dans son analyse de Roussel, d'avoir montré que finalement, les œuvres sans procédé, pour lesquelles Roussel ne propose aucune clé, étaient l'inverse des œuvres à procédé. Les œuvres sans procédé sont très très curieuses chez Roussel. Elles consistent en d'interminables descriptions. Mais des descriptions de quoi ? C'est pour ça, c'est l'aspect par lequel le nouveau roman a été tant frappé par Roussel. Interminables descriptions de quoi ? Eh bien, interminables descriptions de ce dont la description est interminable par nature. Et qu'est-ce que c'est ? Ce dont la description est interminable par nature, bizarrement, ce ne sont pas les choses visuelles, ce sont les images et de préférence les petites images, du type les vignettes. C'est là l'infini de la vue, ce qu'on ne voit qu'à la loupe. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On va voir. Mais dans ces œuvres visuelles et non plus langagières, bien sûr, c'est des descriptions par le langage, mais c'est des œuvres descriptives. Dans les œuvres purement descriptives de Roussel, du type la vue, justement, qu'est-ce qui se passe ? Roussel passe des centaines et des centaines et des milliers de vers à décrire ce qu'on voit dans la lentille d'un porte-plume. Je ne sais pas si ça existe encore, vous savez, mais dans le temps ça existait, c'était beau comme tout. Ça doit encore exister à Montmartre. Hein. Si vous voulez comprendre, vous irez à Montmartre, acheter un porte-plume comme ça, où il y a une petite loupe, une lentille, hein, dans le manche. Vous mettez votre œil et vous voyez. Mais vous voyez, ça doit être très simplifié aujourd'hui. Aujourd'hui, vous devez voir une tour Eiffel et puis voilà. Mais non, du temps de Roussel, ce n'était pas comme ça. Vous voyez quelque chose de proprement inépuisable. Une scène à 80 personnages. Plus que c'est petit, plus que ça foisonne. Voilà. Le porte-plume à lentille. Autre exemple décrit par Roussel dans des centaines de vers, une étiquette d'eau d'Évian. Troisième exemple, un papier à lettres d'hôtel de luxe, à en-tête, notamment dans les villes d'eau. Il y a de prodigieuses en-têtes, hein, où il y a l'hôtel en gros et puis l'écuriste. Et il y a au besoin 100 curistes, hein, tout petit. Ça met Roussel dans la joie. Et il fait de gros livres où il se contente de décrire ce qu'on voit dans la lentille du porte-plume, sur la vignette de la bouteille d'eau, ou sur l'entête du papier à lettres. Comprenez, ça veut dire quoi ? Ben, cette fois-ci, c'est l'inverse. Foucault a complètement raison de dire, mais les œuvres sans procédé, les œuvres de description visuelle, c'est l'inverse du procédé linguistique. Pourquoi ? Mais, vous savez, on voit parfois ça au cinéma, et chacun de nous en rêve, savoir faire ça. Des gens qui glissent une carte dans une porte, et ils arrivent comme ça à ouvrir la porte. Hein. Les policiers et les bandits font ça couramment. Petite carte dure, et puis ils ouvrent. À la lettre, ils fendent la porte. L'idée de Roussel, c'est que si vous glissez dans les choses, une petite vignette, la chose va s'ouvrir. C'est une idée très curieuse, une idée de fou. Mais on peut toujours essayer. Vous glissez votre petite vignette. Entre deux choses. Bon, c'est comme un déclic. Les choses s'ouvrent. En d'autres termes, on retrouve exactement le thème qu'on a obtenu par des analyses. Il me semblait sérieuse, arriver à comprendre ce que c'est qu'une visibilité, il faut fendre les choses. Bien plus, c'est la visibilité qui fend les choses. Et de la même manière, de même qu'il y a un rapport fondamental entre énoncer et fendre les choses, et fendre, pardon, les phrases, il y a un rapport fondamental entre la visibilité et fendre les choses. Pourquoi ? Parce que dans les conditions de la lentille, de la vignette, de la miniature, tout ce que vous voyez, c'est-à-dire les gestes des petits personnages, suscite d'interminables énoncés. Et voilà comment Roussel, en effet, décrit un personnage dans le... sur la vignette de la bouteille d'eau des viands. Une femme grande, avec une froideur prudente dans l'abord. Elle a par bonheur pour elle une forte idée de sa personne et n'est jamais intimidée. Vous remarquez que c'est des poèmes, ça rime. Hein? Elle croit presque tout savoir et les bas bleus et ne fait aucun cas des gens qui lisent peu. Elle tranche quand on parle littérature. Ses lettres, sans un mot plat, sans une rature, n'éclosent qu'après des brouillons laborieux. Voyez que le geste miniaturisé saisi sur la vignette va susciter toutes sortes d'énoncés. D'après l'attitude de la femme, hein, d'après l'attitude, c'est une femme là, sûre d'elle. Elle a une forte idée de sa personne et n'est jamais intimidée, elle croit presque tout savoir, elle est bas bleue. Et du coup, toute une floraison d'énoncés. Et ne fait aucun cas des gens qui lisent peu. Là, ça décolle. Jusque-là, il décrivait la miniature. Et ne fait aucun cas des gens qui lisent peu. Dès lors, à partir de là, c'est des énoncés sur la femme et des énoncés de la femme elle-même. Elle tranche quand on parle littérature. Typiquement, là on entend l'énoncé de la femme. Ces lettres sans un mot plat, sans une rature, ben c'est typiquement le domaine des énoncés. Vous voyez, je vais vite parce qu'on resterait très longtemps. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que je disais... Pour dégager l'énoncé, il faut fendre les choses. Il faut fendre les phrases. Seulement, quand vous avez fendu les phrases en dégageant l'énoncé, vous suscitez immanquablement toute une floraison de visibilité. Inversement, vous fendez les choses pour dégager les visibilités plates, les visibilités vignettes, la planitude du visible. On a vu en effet que le visible, ce n'était pas la chose. Bon, cette planitude du visible, vous ne la dégagez qu'en faisant proliférer une multitude d'énoncés. C'est donc ça les captures mutuelles. Du visible à l'énonçable, de l'énonçable au visible, vont se produire toutes sortes de captures. Et pourquoi en un sens ? Eh bien, revenons au sérieux. Nos schémas précédents montraient quoi ? La forme de l'énonçable est double, on l'avait vu. Pourquoi ? Ben, la forme de l'énonçable... Elle comprend une condition et un conditionné. La condition, c'est le « il y a du langage ». C'est le « il y a du langage ». Le conditionné, c'est l'énoncé. La forme du visible est double. La condition, c'est la lumière. Le conditionné, c'est le reflet, l'éclat, le scintillement. Oh, voilà. Voilà ce qui m'intéresse. Ça, c'est acquis par nos analyses précédentes. Je veux dire, là, on retrouve l'analyse sérieuse. Il y a quelque chose de très troublant. C'est dans quel rapport sont le conditionné et la condition dans chaque cas. Dans quel rapport? Eh bien, c'est toujours, toujours, et à tous les niveaux, c'est la même chose qui surgit chez Foucault. C'est un rapport d'extériorité. C'est un rapport d'extériorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la condition impose au conditionné un régime de la dispersion. Un régime de la dissémination. Le langage est la condition des énoncés, mais les énoncés n'existent que comme disséminés dans le langage. Le langage est forme d'extériorité par rapport aux énoncés. De même pour le visible. C'est vrai que la lumière est la condition. Mais en tant que condition, c'est la forme dans laquelle les éclats, les scintillements se dispersent, se disséminent. La lumière est la forme d'extériorité, des reflets, des éclats et des scintillements. Là, à cet égard, il y a rupture de Foucault par rapport à Kant. Il n'y a pas de forme d'intériorité. Toute forme est une forme d'extériorité. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse parce que ça pose un problème, ça. Ça nous éviterait peut-être de mauvaises lectures de Foucault, même à un niveau involontaire. À première lecture, beaucoup de gens ont l'impression que Foucault est avant tout un grand penseur de l'enfermement. Et l'on invoque toujours deux de ses livres principaux, l'un sur l'hôpital, l'asile, au XVIIe siècle, l'autre sur la prison. Cette impression peut valoir même pour des auteurs de grand talent, de grande force. Je pense à la manière, par exemple, dont Paul Virilio, à plusieurs reprises, a critiqué Foucault. Alors, c'est pas grave quand c'est Virilio, parce que Virilio a une pensée lui-même originale, et que, en sens, à ce moment-là, son problème, c'est pas de comprendre Foucault. Mais si à nous, notre problème, c'est de comprendre Foucault, on ne peut pas suivre l'objection de Virilio. Virilio dit à Foucault, lui dit, mais vous êtes obsédé par l'enfermement. Alors que même du point de vue de la pire répression sociale, l'enfermement c'est un tout petit truc. Il y a quelque chose de beaucoup plus important que l'enfermement, c'est le quadrillage. Et le quadrillage en espace libre. Le quadrillage à l'air libre. Et quand Virilio essaie de résumer sa critique de Foucault, il dit « la police, c'est pas la prison, finalement. La police, comme il dit très bien, c'est la voirie. La police, c'est la voirie, c'est-à-dire c'est le contrôle des rues, c'est le contrôle des espaces libres, et pas du tout la fermeture de l'espace. » En d'autres termes, ce qui est dangereux, c'est le périsseur. Là où la police agit, c'est, si vous voulez, c'est le périphérique, c'est pas l'impasse. Il s'agit de quadriller un espace libre et pas du tout de constituer des espaces fermés. Alors, à première vue, on pourrait avoir l'impression que l'objection porte. En fait, je crois que ce que dit Virilio, c'est toujours ce qu'a dit Foucault. Sans doute, il l'a dit dans un autre style, avec un autre ton. Je veux dire, c'est pas important tout ça. Et ça ne supprime rien de la nouveauté de Virilio à tout autre égard. Puisque, encore une fois, c'est pas la tâche de Virilio, essayer de comprendre Foucault. Mais ça me paraît évident que, si l'on est trop sensible dans la pensée de Foucault au thème de l'enfermement, qui pourtant est un thème existant, mais on va voir en quel sens, on risque alors de plus rien du tout comprendre à l'ensemble de sa pensée. Pourquoi ? Parce que c'est très évident que l'enfermement chez Foucault n'est pas une fonction. Et ça n'a jamais été une fonction pour Foucault. Enfermer n'est pas une fonction sociale. C'est un moyen ambigu sous lequel des fonctions très diverses s'exercent. Qu'est-ce que je veux dire ? Chose très simple. L'asile au XVIIe siècle et la prison au XVIIIe, XIXe sont des milieux d'enfermement. D'accord, c'est des milieux d'enfermement. Et pourtant, ce n'est pas du tout la même fonction sociale. Quand l'asile enferme au XVIIe siècle, et enferme les fous, les vagabonds, les chômeurs, etc. Cet enfermement est le support de quelle fonction ? Un exil. Il s'agit de retirer de la société. C'est la fonction exil qui se réalise au XVIIe siècle dans l'hôpital général. Or, vous remarquerez que l'exil est une fonction d'extériorité. C'est mettre en dehors de la société. Donc, là, typiquement, le milieu d'enfermement est au service d'une fonction d'extériorité. Exilé. On n'enferme que pour et par manière d'exiler. Au 19e, la prison. Vous me direz, elle aussi, c'est un exil. Oui, d'une certaine manière, on retranche de la société. Mais c'est une survivance, l'aspect exil intérieur de la prison. C'est une survivance. En fait, elle assure une nouvelle fonction. C'est que dans le milieu d'enfermement de la prison, s'exerce un quadrillage très strict. Quadrillage de la vie quotidienne, du moindre instant de la vie quotidienne. Contrôle de la vie quotidienne, contrôle de la quotidienneté. Ça, c'est beaucoup plus important que l'exil. C'est une autre fonction que l'exil. La prison est le lieu d'un quadrillage. Ce qui permet à Foucault, dans des pages très brillantes, de dire « L'asile est l'héritier de la peste. » Non, pardon. « L'asile est l'héritier de la lèpre. » La prison est l'héritier de la peste. Qu'est-ce qu'il veut dire dans ces très belles pages de surveiller et punir ? Il veut dire le lépreux fait-elle. L'image parfaite et pure de l'exilé. Le retranché de la société. La léproserie, c'était la fonction exil. La lèpre, c'est plus ça du tout. La peste, c'est pas ça du tout. La peste, c'est bien autre chose. Quand la peste éclate dans la ville, qu'est-ce qui se passe? Et c'est même avec la peste qu'a surgi ce type de contrôle, ce contrôle du quotidien. Tous les matins, des gens assermentés passent, et on doit leur répondre sur l'état de santé des habitants de chaque maison. Les règles d'exposition des cadavres, de visite des malades, tout ça, sont codifiées dans les moindres détails. C'est avec la ville pestiférée, selon Foucault, que le quadrillage de la cité s'établit. C'est une fonction quadrillage et non plus une fonction exil. On ne chasse pas les pestiférés. Bien plus, non seulement ce n'est pas possible, mais les chasser serait extrêmement dangereux. Et quand il y a une maison où il y a un nouveau pestiféré, elle doit faire la déclaration immédiate. C'est avec la peste que surgit notre régime moderne du contrôle du quotidien. Donc, Foucault peut dire à cet égard, la prison, elle prendra le relais de la peste. Exactement comme l'asile général, comme l'hôpital général prenait le relais de la lèpre. Mais vous voyez que ces deux milieux d'enfermement, nous aurions bien tort de croire que dès lors, enfermement explique leur nature. Pas du tout. Enfermement, c'est une grosse généralité qui ne nous dit rien. Foucault n'a jamais été le penseur de l'enfermement. Et pour une raison très simple, c'est que pour lui, toute forme est une forme d'extériorité. La fonction que le milieu d'enfermement, asile, sert, c'est la fonction d'extériorité, exil. La fonction que la prison sert, c'est la fonction d'extériorité, quadrillage en milieu libre. Et c'est pour ça que le droit pénal, au moment de la prison, que le droit pénal au XVIIIe et au XIXe siècle, n'est nullement centré sur la prison. Pourquoi? Parce qu'il rêve d'un quadrillage beaucoup plus subtil et beaucoup plus poussé. C'est ce que surveiller et punir essaiera de montrer. Que c'est parce que les pénalistes, le droit pénal, les juristes du droit pénal, rêvent d'un quadrillage coextensif à la cité, que dès lors la prison ne les intéresse pas tellement. Et quand la prison va s'imposer en vertu de sa propre origine à elle, qui n'est pas une origine juridique, qui est une origine disciplinaire, on l'a vu, quand la prison s'impose, c'est parce qu'elle dit, si je tenais le discours de la prison, je dirais, moi, prison, le discours que la prison, pour sa propre défense, tient aux pénalistes, tient aux juristes, ce serait le discours suivant. Moi, prison, je suis plus apte que personne à réaliser votre vœu à vous, les pénalistes, le grand quadrillage, c'est-à-dire le contrôle du quotidien. Simplement, ajouterait la prison, je ne peux le faire qu'avec mes modestes moyens, c'est-à-dire dans un milieu clos. L'heure n'est pas encore venue de quadriller un espace ouvert, nous ne savons pas le faire. Mais dès qu'on saura le faire, la prison perdra son utilité. Ce qui compte, ce n'est pas enfermement. C'est les fonctions d'extériorité très diverses auxquelles l'enfermement sert. Et vous voyez pourquoi, chez Foucault, perpétuellement. Et Foucault serait le premier à dire, bien évidemment, ce qui a compté à cet égard, l'accord avec Virilio serait très profond. Entre eux deux, il n'y avait qu'un malentendu. Ce qui compte, c'est le quadrillage. Simplement, le fait est que historiquement, Le quadrillage a dû être essayé d'abord dans des conditions artificielles qui sont celles de la prison. Mais même les milieux d'enfermement, vous voyez que les milieux d'enfermement sont des étapes transitoires, des variables d'une fonction d'extériorité. C'est à la lettre des variables d'une fonction d'extériorité. Et les fonctions d'extériorité peuvent se passer de ces variables. L'exil peut fonctionner sans milieu d'enfermement. Et c'est comme ça que les fous étaient traités à la Renaissance. À la Renaissance, on les flanquait sur un bateau, allez, et puis on... Bon. Là, ils étaient exilés, sans être enfermés, si enfermés en fait sur le bateau. Bon. Mais comme dit Foucault, dans une très belle formule, ils étaient prisonniers de l'extérieur. Ils étaient prisonniers de l'extérieur, fonction d'extériorité. Ils étaient exilés. Alors, exil ou quadrillage, ça c'est un choix fondamental. Mais c'est deux fonctions d'extériorité. Bref, les milieux d'enfermement sont des variables secondaires par rapport aux fonctions sociales, qui sont toujours des fonctions d'extériorité. Où je veux en venir dans tout ça ?